Chapitre 5. Augustin de Rougetère se tenait sous son chêne rouvre dans son jardin de l'avenue Malakoff. Ce chêne avait vécu là, sous les rois, la Première République et l'Empire, avec d'autres chênes. Tous descendaient d'une lignée millénaire qui formait une forêt dans la Gaule celtique. Maintenant, il était seul. Il avait 700 ans. Ses creux ressemblaient à des cavernes, son écorce rappelait les vieux rhinocéros. 20 branches, épaisses comme des troncs, produisaient des myriades de folioles tremblotantes. Le comte Augustin aimait cet arbre. Par les soirs de tempête, il croyait entendre les clameurs des chevaliers, des hommes d'armes, partant pour la bataille ou la voix des antiques cornemuses. C'était un homme amer, taciturne et pieux. Il avait fait la guerre des brousses, des savanes, des marécages et des rocs. Et en août, ayant voulu reprendre le harnais, il s'était vu trahir par ses infirmités. Dans le déclin du jour, il rêvait sauvagement. Le temps et les débats gisaient à ses pieds. Du 20 août jusqu'à la Marne, il avait failli mourir de haine et de rage. Puis des fables magnifiques avaient renouvelé sa sève. Ce soir, il était aussi mélancolique et aussi ardent que ces nuages de feu et de fumeux qui cachaient le soleil mourant. Il ne comprenait pas cette guerre. Elle était couverte d'un exécrable brume. Elle enfouissait l'héroïsme dans les cavernes, elle dévoilait des ennemis plus abjects que le niam-niam ou les têtes plates. Le journal Le Temps donnait un communiqué favorable. Augustin de Rougetère fit un signe de croix et dit à voix basse « Levez-vous, Seigneur, à votre colère, signalez votre puissance contre nos ennemis, que le mal qu'ils ont fait se retourne contre eux, que leur injustice retombe sur leur tête. » Il avait les mains jointes. Les souvenirs de sa jeunesse se levaient avec la prière. Puis il tira une lettre de sa poche et la relut. « Mais qu'est-ce que cela signifie? Pierre est-il devenu fou? Ou m'a-t-il écrit pendant un délire ?» Il s'assit sur un banc de porphyre et retomba dans son rangement. Les nues crépusculaires passaient lentement au-dessus du rouvre. Un domestique parut qui apportait une carte. « Bon, j'y vais !» Augustin se leva et marcha roidement vers l'hôtel. Deux soldats l'attendaient dans le petit salon. Il eut un geste brusque, puis, ses yeux s'étant fixés sur les visiteurs, il demeura paralysé. Chacun des deux visiteurs était l'image parfaite de l'autre, et leurs images était celle de Pierre de Givreuse. Un souffle passa sur le vieil homme, presque de l'épouvante. Il dit d'une voix creuse, « Lequel de vous est mon neveu ?» Les soldats échangèrent un regard. L'un d'eux répondit, « Ben, nous croyons être l'un et l'autre, Pierre de Givreuse. » Le comte eut un sursaut qui marquait la stupéfaction avec une nuance de colère. « Mais c'est une mystification !» cria-t-il. « L'heure est abominablement mal choisie. »« Hélas, c'est la plus profonde vérité !» fit celui qui n'avait point parlé. Leurs voix étaient pareilles comme leurs visages. Une angoisse subite saisit Rougetère. Ses tempes se couvrirent de sueur. C'était une âme violente où les sentiments naissaient par blocs. Il ne savait en ce moment ni ce qu'il pensait, ni ce qu'il croyait. Le surnaturel entrait à pleine baie. « Soit, dit-il, chacun de vous imagine être Pierre de Givreuse, mais pas plus que moi, vous ne doutez que l'un de vous soit victime d'une illusion. » Ils baissèrent la tête et ne répondirent point. « Mais il n'est pas possible que vous en doutiez !» affirma Augustin avec angoisse et indignation. Alors, celui qui avait parlé d'abord dit tout bas, ben « Nous en doutons !» Cette réponse exaspéra le vieillard. On peut douter de tout, hors la parole divine. On ne peut douter de l'identité des êtres. Vous êtes deux, vous ne niez pas que vous soyez deux. Il tremblait d'exaltation, de révolte et de crainte mystique. Bien, nous croyons être deux, mais nous n'en sommes pas sûrs. Hagard et farouche, Rougeterre demeura muet pendant une interminable minute. Ses lèvres avaient blanchi, ses joues tremblaient. À la fin, il balbutia : « Oh, si c'est une épreuve, oh mon Dieu, ayez pitié de moi. J'ai le cœur contrit et humilié. Ne m'abandonnez pas au piège de celui qui nous tente depuis la première femme. » Puis, passant la main sur son visage, il reprit quelque sang-froid. « Il y a une logique même dans le surnaturel, dit-il. Si vos esprits ne sont pas égarés, vous devez avoir la certitude que vous êtes entièrement distincts l'un de l'autre. » Et nous voyons bien, répondit celui qui était le plus éloigné du vieil homme, que nous sommes deux, mais nous savons aussi que toute notre vie passée nous est commune. Nous nous sommes longuement entretenus. Chacun de nos souvenirs coïncide, sans aucune espèce d'exception, sauf à partir du moment où nous nous sommes réveillés à l'ambulance de Viorn. Interrogez-nous séparément sur notre enfance et sur notre jeunesse. Confrontez vos souvenirs avec les nôtres. Vous aurez comme nous la conviction que rien de ce qui est arrivé à l'un n'est étranger à l'autre. Rien! La dualité ne remonte qu'à quelques semaines. Mais pour tout ce qui s'est passé à Viorn et à Cavre, pour les incidents de notre voyage commun de Gavre à Paris, nos personnalités sont certainement distinctes, avec une réserve cependant. C'est que nous n'avons la plénitude de nos forces et de nos facultés que lorsque nous sommes réunis. Dès qu'on nous sépare, nous nous affaiblissons, le timbre de nos voix change, nos mémoires sont moins sûres, nos pensées moins vives et moins complètes, notre sensibilité atténuée, notre vue et notre ouïe moins nettes. Ces paroles désespéraient Augustin de Rougeterre. Il tentait d'échapper à la certitude qu'elles exhalaient ou qu'elles faisaient pénétrer au tréfonds de son âme. Il ne voulait pas être convaincu, ou du moins, il voulait confusément ne pas l'être si vite. Mais le temps semblait aboli. Une abondance prodigieuse d'impressions envahissait le vieux gentilhomme et trouvait un écho puissant dans son mysticisme. « C'est bien, dit-il enfin avec une sorte de fatalisme, je vais vous mettre à l'épreuve. Qu'un de vous veuille bien me suivre ?» L'un d'eux se leva. Augustin le mena à travers la galerie dans son cabinet de travail. Là, il ouvrit un tiroir, choisit un petit album et à la deuxième page, il montra un dessin à la plume qui représentait une jeune femme. « Qui est-ce » demanda-t-il. « Oh, c'est ma grand-tante Pauline de Vouchler. » « Et qui a exécuté le dessin ?»« Ben, c'est vous-même, mon oncle. » Le dessin n'était pas signé. Le visage d'Augustin marqua une émotion très douce. Il se pencha brusquement vers le jeune homme et l'embrassa. L'autre lui rendit le baiser avec une tendresse évidente, mais une singulière roideur. « Voyons, reprit le vieillard. Il montra une douzaine de daguerréotypes et de photographies plus modernes. Pierre de Givreuse les reconnaissait toutes. Enfin, avec un petit tremblement, Augustin ouvrit une minuscule boîte d'écailles où étincela une bague servie d'émeraude. « Oh, c'est un bijou de famille, fit gravement le soldat. Il a appartenu à mon arrière-grand-mère, la marquise Catherine de Givreuse, morte sur l'échafaud en janvier 94. « Mais il n'y a aucun doute, affirma le vieil homme, c'est toi qui es mon neveu, Pierre. » « Attendez, répondit le jeune homme avec lassitude, vous n'avez pas entendu mon compagnon. » Rougeterre secoua la tête. En ce moment, sa conviction était faite. Si l'aventure lui apparaissait toujours extraordinaire, elle lui semblait moins surnaturelle. Il dit cependant, bah, nous verrons, tu m'attends dans le hall. Il accompagna Givreuse et alla chercher le second soldat. Puis il montra le dessin qui représentait la jeune femme. Comme l'autre, celui-ci reconnut Pauline de Rouchler et attribua le dessin à l'oncle. Alors l'âme du comte se remplit de ténèbres. Et à mesure que le soldat reconnaissait les portraits assemblés dans l'album, le sentiment du prodige revenait avec une puissance accrue. Ai-je perdu la raison, mon Dieu, la folie suffirait à tout expliquer, mais suis-je fou? Il se contempla dans une glace, puis il se tâta comme il arrive dans les songes. Non, si j'étais fou, je n'aurais pas ces doutes. Je n'aurais pas ce retour sur moi-même. Mais alors, l'univers est effroyablement différent de ce que j'imaginais. Du fond de l'inconscient, ces paroles montèrent à ses lèvres. Un seul Dieu en trois personnes. Pourquoi pas un homme en deux personnes? Et peut-être pourquoi pas tous les hommes en deux personnes? L'homme est à l'image de Dieu. Et si Dieu est la somme de tous les savoirs et est aussi la somme de tous les mystères, il ne nous révèle les savoirs et les mystères que selon les volontés ou des circonstances que lui seul dirige. Votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il se tourna vers le soldat et le pressa sur sa poitrine. Mais toi aussi, tu es Pierre de Givreuse, balbutia-t-il. Puis, remarquant que le jeune homme était pâle et défait, qu'as-tu, mon enfant? Oh, ce n'est rien. La fatigue d'être sans lui. Allons le rejoindre. Et qu'allons-nous faire maintenant? Demanda Rougetaire, quand ils se retrouvèrent tous trois dans le hall. Certainement vous n'avez pas revu votre mère. Comment l'aurions-nous osé? Il nous fallait vos conseils. Si nous paraissions ensemble devant elle, à l'improviste, son émotion serait terrible. Et si nous paraissions séparément, elle s'effraierait de notre évidente faiblesse. Il est désirable que nous ne nous séparions pas et que notre dualité paraisse seulement extraordinaire. Bien, voici ce que nous avons imaginé. L'un de nous ne serait pas Pierre de Givreuse. Une ressemblance, même inouïe, surtout si elle est annoncée d'avance, provoquera sans doute une extrême surprise, mais non de l'effroi ou de l'angoisse. Notre mère comprendra qu'une amitié fervente ait pu naître entre nous, semblable à l'affection des jumeaux. Augustin réfléchit quelque temps. Ses pensées s'ordonnaient avec beaucoup de peine. L'évidence d'une intervention surhumaine lui semblait maintenant éclatante. Tantôt il entrevoyait une volonté sinistre, et tantôt la plus merveilleuse faveur de l'au-delà. Il répondit, hagard, « Je ferai ce que vous voudrez. D'ailleurs, votre idée me semble raisonnable. Il faut toutefois nous entendre sur certains détails. Mais la pâleur et la rougeur se succédaient sur ses tempes. Sa voix s'abaissa jusqu'au chuchotement. « N'avez-vous aucun souvenir de quelque chose d'étrange, un souvenir qui pourrait ressembler à un rêve ?»« Rien, non, entre le moment où je suis tombé sur le champ de bataille et le moment où nous nous sommes réveillés, notre mémoire est vide. »« Complètement ?»« Complètement ?»« Dieu ne veut pas qu'on sache, » fit le comte en joignant les mains. Que sa volonté soit faite. Chapitre 6. Quand Madame de Givreuse eut entendu le récit que venait de lui faire Augustin, elle demeura éperdue. Puis elle demanda, « Et vraiment, la ressemblance vous paraît absolue ?
Bon, peut-être existe-t-il quelque faible, très faible différence. Oh, j'étais trop ému pour les discerner. » Mais il semble impossible de soutenir que l'un ressemble plus à Pierre que l'autre.
Moi, je crois que je ne m'y tromperai point, fit rêveusement madame de Givreuse. Les mères ont un sens de plus, Augustin. Elle souriait maintenant. Un univers montait en elle, innombrable, qui semblait se perdre dans l'éternité. Elle cria avec passion. « Mais pourquoi n'est-il pas encore auprès de moi? Comment a-t-il pu me faire attendre ?»«
À cause de sa tendresse même, il a craint. »
Elle interrompit fougueusement. « On m'a caché quelque chose, ses blessures.
Oh non, elles n'ont aucune gravité. Mais il est encore maigre et pâle. » Sans doute il aurait pu annoncer son retour. Il a craint l'incertitude de la poste et du télégraphe.
Déjà, elle s'était calmée. Une douceur ardente s'exhalait de son visage clair que l'âge n'avait pu ternir et qu'à peine parcouraient quelques rides fines comme des fils de la Vierge. Elle avait les mêmes yeux que Pierre de Givreuse et de grands cheveux à la Montespan où la soie d'or se mêlaient des chevaux argentés.
« Oh, qu'ils viennent vite !» chuchota-t-elle.
Elle était debout quand ils entrèrent. Elle s'élança à leur rencontre, mais son élan se brisa, tant la surprise fut profonde. Ils demeuraient ensemble, consternés et ravis, s'efforçant de distinguer entre son fils et l'étranger. De fines dissemblances décelaient à son regard aigu. La face de l'un semblait légèrement plus large que celle de l'autre. Le grain de leur peau n'apparaissait pas identique. Elle n'aurait su dire lequel ressemblait davantage à Pierre.
« Mon fils ! »
cria-t-elle avec l'espoir sourd que cet appel ferait naître une émotion révélatrice. Les deux visages exprimèrent le même trouble. Enfin, une voix voilée et hésitante répondit
« Ma mère !»
Déjà, elle étreignait celui qui venait de répondre, mais elle surprit dans le regard de l'autre une tendresse tremblante qui la bouleversa.
« Soyez le bienvenu, » dit-elle en lui tendant la main. « On m'a dit que votre amitié est parfaite. »
Elle soupira et elle ajouta involontairement
« Et comme je le comprends !»
Elle embrassa encore celui qui avait répondu à son cri, puis, mue par une impulsion irrésistible, elle mit ses deux mains sur les épaules de l'autre. Tout de suite, elle les retira. Une foule de contradictions la tourmentait, où la contrainte se mêlait à la joie, où des soucis obscurs entravaient l'espérance. On entendit un pas léger et, dans l'embrasure de la porte, parut une étincelante fille des hommes. Elle s'avançait avec le rythme d'une pêcheuse des Cyclades, mais grande, un visage du nord, les joues fines et fluides, les yeux variables comme les vagues, la chevelure en crinière noire et moirée de cuivre. En voyant les deux hommes, elle poussa un cri qui était presque une plainte. Puis elle s'immobilisa, les pupilles élargies, tandis qu'il la contemplait, tout pâle.
« Serais-tu plus clairvoyante que moi, Valentine ?» murmura madame de Givreuse. « Je n'ai pu reconnaître Pierre. »
La jeune fille les observait, concentrant son attention et faisant appel à cette mémoire des formes et des couleurs si vive à son âge. Enfin, découragée,
ben, « Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. »
Chapitre 7. Les jours passèrent. Peu à peu, l'invincible habitude rendait normale une des plus étranges aventures qui s'est arrivée dans les annales de l'homme. Madame de Givreuse s'habituait à la double présence de celui qu'elle croyait son fils et du fantastique inconnu qui avait pris le nom de Philippe Frémeuse. Pendant 2 semaines, les jeunes hommes ne sortirent point, hors quelques promenades furtives le soir dans les rues les plus désertes. Ils ne se quittaient guère. Non seulement leurs forces et leurs facultés décroissaient lorsqu'ils n'étaient pas ensemble, mais il en venait une sorte d'épouvante, le sentiment d'une affreuse solitude. Cependant, une très lente métamorphose se faisait dans leurs êtres physiques et mentaux. Leur peau fut moins diaphane, leur teint moins terne, et leurs cheveux parurent plus épais. Leur densité aussi augmentait. De 37 kilogrammes qu'ils pesaient au début de leur séjour à Gavre, ils étaient parvenus à 44. Mais c'est avec Valentine de Varsène que leurs relations étaient les plus singulières. Ces deux jeunes filles vivaient depuis 3 ans avec Madame de Givreuse lorsque la guerre éclata. Valentine avait d'abord l'aspect d'une enfant. Des voyages, une passion dure et fugitive l'absorbait Givreuse. Et c'est 2 mois avant la guerre qu'il commença d'aimer la jeune hôtesse d'un amour qui demeura secret. Pierre concevait qu'aucune aventure passagère n'était admissible. Tel le droit d'asile au Moyen-Âge, le privilège de l'hospitalité conférait à Mademoiselle de Varsène des droits sacrés. Toute autre fin qu'un amour pour le mieux et pour le pire apparaissait condamnable. Il attendit que le temps marquât la signification réelle des circonstances. Quand la guerre éclata, il n'avait plus d'incertitude pour lui-même, mais il discernait mal les sentiments de Valentine. Elle les ignorait. Elle n'avait pas une âme simple. Son expérience était plus complexe que beaucoup d'expériences. Dans la féerie de l'éclosion, la souffrance est aussi forte que la joie. Quelque horreur se mêle à la grâce et des craintes subtiles rendent chaque vœu redoutable. On est un pauvre être soumis à des puissances qu'on sent souvent brutales et le désir est balancé par des mystères menaçants. Elle n'en éprouvait pas moins un goût vif pour Pierre. Il fut la seule figure d'homme qu'elle admit dans ses songeries. Quand ils se séparèrent, trop de chances mauvaises barraient l'avenir. À la minute sinistre des adieux, il y eut un grand éclair entre eux, mais aucune parole. Les deux soldats gardaient un souvenir indescriptible de cette minute. À la vue de Valentine, ils eurent un tressaillement de résurrection et chacun sut que ses impressions étaient identiques à celles de l'autre. Ils n'en ressentirent aucune jalousie. Quand ils réfléchissaient, ils étaient abstraitement contraints de se considérer comme des rivaux, sans influer sur leurs sensations. En tant que leurs sensations se rapportaient à eux-mêmes, cette conviction avait une action sur leur rapport avec Valentine. Ils aimaient en silence, furtivement. Ils ne voyaient aucune issue à leur amour. Ils concevaient qu'il serait odieux de ne pas le cacher. Cette situation désorientait la jeune fille. C'était souvent une détresse obscure, parfois une sorte de honte, qui se ranimifiait dans les plus délicates régions de l'âme, un étonnement mêlé de consternation ou une curiosité ardente et triste. La minute palpitante des adieux, le grand éclair jailli de l'inconscient, étaient les plus éclatants souvenirs de Valentine. Il créait la fine substance de ses rêves qui croissent à la manière des organismes et dont les racines trempent au mystère de la vie. Pendant l'absence de Pierre, l'amour était venu, aussi furtif que les petites stellaires au fond des bois. Toute l'inquiétude, toute la douleur de la guerre s'y mélangeait, mais aussi les forces inlassables qui construisent et reconstruisent. Sa complexité et ses détours étaient des nuances d'âme, non des ambiguïtés ni des équivoques. Depuis le retour, des éléments terrifiques se mêlaient à des éléments si troubles que toute la réalité du monde en était bouleversée. Et pourtant, l'amour subsistait. Il subsistait fantastiquement. C'était un homme que Valentine aimait. Celui qui vivait naguère au château de Givreuse et dont l'identité était certaine. Mais comment le discerner de l'autre?
Lorsqu'elle se trouvait seule avec celui qui tenait le rôle de Pierre, il ne semblait plus pareil à lui-même, il n'était qu'en partie présent. Et cela correspondait à une réalité. Seul, chacun revêtait une apparence imparfaite, ambiguë et ressemblait moins givreuse. Elle tentait vainement de raisonner. Toute logique devenait fausse, insuffisante, misérable. Pour hâter la guérison des blessés, Madame de Givreuse résolut de repartir pour la campagne. Ils rentrèrent dans le château de Givreuse, dont l'aile gauche seule est habitable. C'est le domaine des chauves-souris. Elles partagent le granit avec les corneilles, les oiseaux de mer et les martinets. Le peuple des ajoncs et des genêts a tracé sa route dans les ruines. Les vents de l'Atlantique rugissent sur les rouvres trapues, et les hérissons sortent comme des fantômes rebroussés au clair des étoiles. Mais l'aile gauche est confortable. La pierre est sèche, les baies ouvrent de larges yeux au soleil qui naît sur la plaine et meurt dans les eaux. Des cheminées grondantes consument les ajoncs, les pins et les chênes. Les murs sont du même granit que les falaises, indestructibles, sauvages et rassurants. Dans ce refuge farouche, les soldats et Mademoiselle de Varennes vécurent une existence émouvante. À peine s'ils en sentaient l'étrangeté. La palpitation éternelle du cœur des eaux, le grondement des marées et les ouragans chargés de l'odeur des terres lointaines, les nuits immenses, les pierres antiques du château qui retenaient le souvenir des générations jadis tumultueuses, et là-bas, sur une plaine désertique, les dolmens et les comlecs imprégnés de l'âme primitive, toute l'ambiance s'adaptait aux choses mystérieuses. L'amour suivait sa voie comme la gravitation, comme les rayons qui voyagent dans la nuit interstellaire, comme les âpres semences des ajoncs et des ronces. Parce qu'il contient l'énigme totale, il s'adapte à toutes les énigmes. Il croissait dans Pierre et Philippe, d'autant plus fort qu'ils étaient plus faibles. Il croissait dans Valentine, douloureux et craintif, aussi chaste que ce fleuve d'argent qui, par les grands soirs, semblait couler de la lune sur les flots intarissables. Cependant, les jeunes hommes ne cessaient de se métamorphoser. Une alimentation intensive leur rendait les énergies perdues et augmentait rapidement leur densité. L'anomalie troublante qu'on avait remarquée à Gavre diminuait. Vers le milieu de novembre, ils pesaient chacun 55 kg environ, sans que leur embonpoint eût subi une variation sensible. À la vérité, le visage était presque normal. Les joues n'étaient plus aussi creuses, mais le reste du corps demeurait svelte et maigre. Il se faisait aussi une métamorphose psychique, ou plutôt physiologique. S'ils éprouvaient toujours la même tendresse l'un pour l'autre, leurs nerfs supportaient mieux les intervalles de séparation. Il fallait maintenant un temps assez long pour qu'ils ressentissent dans toute son intensité l'impression de faiblesse, d'angoisse et de solitude que causait à chacun des deux l'absence de l'autre. Sans doute, dès qu'une certaine distance les séparait, Philippe et Pierre ressentaient vite du malaise, mais ce malaise était tolérable pendant plus d'une heure. Ce n'est qu'ensuite qu'il commençait à devenir une souffrance et à donner une sensation de grande fatigue. Ils ne se soumettaient pas volontiers à une telle épreuve, mais ils en admettaient l'utilité. Et quelqu'un les y obligeait, car une personnalité sagace et énergique leur donnait ses soins et leur imposait sa volonté. C'était le vieux neurologue Bernard Savard, dont on voyait le sanatorium au-delà de la grande falaise au milieu d'une lande. On n'y soignait que des créatures étranges. Quatre bâtiments, séparés par des jardins, abritaient les malades, classés selon leur tare. Quoiqu'il vécût depuis 25 ans avec des neurasthéniques et des déments,
Savart gardait une âme saine, tandis que la singulière influence des désordres nerveux, dont la contagion offre des analogies étroites avec celle des maladies microbiennes, à chaque instant frappait un médecin, un infirmier ou une infirmière. Savart demeurait invulnérable. Son immunité l'étonnait lui-même. C'était un esprit aussi libre que le comporte l'infirmité humaine. Il n'avait remplacé ses croyances religieuses par aucune des superstitions des hommes de science. Rien ne lui semblait incroyable. Selon lui, l'absurde n'existait point. Et toute contradiction pouvait être une apparence. « Que donc la raison, disait-il, s'il une cristallisation d'antiques expériences, disait-il. Depuis les temps historiques, nous avons vu sombrer plusieurs de ses meilleures escadres. Comme Platon semble déjà incohérent et Aristote dérisoire. Pourtant, ce furent d'incomparables cervelles. Croyez bien qu'elles feraient des nouvelles constructions à un usage merveilleux et qui dépasseraient un peu les manœuvres de Comte de Spencer ou du jeune Nietzsche. Pourtant, le cas de Givreuse l'avait abasourdi. Il cherchait un équivalent dans les textes millénaires et n'en trouvait point. « Il y a bien, disait-il, des histoires aussi désorbitées, mais elles sont imaginaires. Il s'agit de savoir si celle-ci est réelle. Si elle l'est, nous entrons dans une norme inédite, et avec elle toute la vie terrestre. » Il s'acharna à revérifier les preuves. Elles valaient celles des plus sûres découvertes scientifiques. L'anomalie des densités le frappait plus que tout. Au moment où il reçut les premières confidences, le poids respectif des jeunes hommes ne dépassait pas encore 45 kilogrammes. Ce poids était en disproportion flagrante avec le volume des chairs et des squelettes. Philippe ou Pierre, tels qu'ils apparaissaient, devaient atteindre chacun 70 kilogrammes environ. Et l'on savait avec une certitude entière qu'avant son départ, Pierre en pesait 73. Savart s'en quitte aussi avec insistance de l'endroit où Pierre était tombé. Il nota que cet endroit n'était pas le même que celui où on les avait ramassés. Le lieu où s'est produit le phénomène a fatalement une importance. Que l'événement soit biologique, psychique ou social, remarqua-t-il un soir qu'il causait avec le médecin des Givreuses, homme tellement sûr qu'on ne lui cachait rien. Mais dans l'espèce, qu'entendez-vous par événement social? Bon, j'entends quelques substitutions, si improbables qu'on serait tenté de la tenir pour impossible, mais qu'il faut pourtant faire entrer en compte. Il marchait sur les murailles de l'enceinte, sous un tiers de lune jaune qui descendait vers la plaine des flots. Leur barbe blanche jetait des lueurs argentines. Il y avait autour d'eux la même énigme que ne sentaient pas encore les anthropoïdes des âges tertiaires, mais qui déjà tourmentait sourdement ceux qui avaient levé les lourds granits parmi les fougères. « Et que croyez-vous ? » demanda timidement le médecin des Givreuses. « Rien encore, tout est suspendu. Mais y a-t-il beaucoup de faits scientifiques plus sûrs que l'unité de ces deux hommes ?» L'autre tressauta, il jeta un regard de biais à Savart. « L'unité, vous pensez donc qu'ils sont l'un et l'autre, Pierre de Givreuse ?» Je pense que je n'ai aucune raison d'en douter. Il n'existe dans les archives de l'identité aucune preuve mieux établie que l'épreuve de cette unité, n'était le caractère de l'événement. Oh, je ne dis pas remarquer que ces deux hommes ne soient qu'un seul homme, encore que leur dualité m'apparaisse moins complète que toute autre dualité humaine, mais je dis que tout m'excite à admettre qui n'ont été formés à l'aide d'un seul homme. « Voyons !» se récria Morlaix, dont le bon sens s'insurgeait. « Vous ne voulez pas suggérer que l'un et l'autre sont une partie de Pierre ?» C'est au contraire ce que je veux dire. J'ai fait le tour de toutes les combinaisons imaginables pour moi. À moi de recourir à la substitution, je ne vois que le dédoublement. Mais c'est impossible. Bon, c'est seulement contraire à toute l'expérience humaine. On n'a jamais vu un homme, un lion, une grenouille, un poisson, un crabe formés par bipartition. Deux hommes, deux lions, deux grenouilles, deux poissons, deux crabes. Et cela n'empêche pas que la bipartition est le mode primitif de la génération, et que pendant une période qui est peut-être la plus longue de l'histoire des vivants, c'est en se divisant en deux que les êtres se multiplièrent. Et n'oublions pas, cher ami, que notre corps contient une multitude de cellules qui procèdent ainsi. Alors vous supposez que Pierre de Givreuse. Morlaix s'interrompit tellement l'hypothèse lui semblait ressortir à la démence. Je ne suppose encore rien, cher ami. Je me borne à donner une des deux conclusions que m'impose mon infirme logique. Cette conclusion, déjà terriblement falate en elle-même, l'est plus encore si on cherche à la préciser. Il faudrait en effet supposer non seulement que chaque cellule de Pierre de Givreuse s'est divisée en deux cellules, mais encore que toute la partie minérale ou pseudo-minérale du corps s'est divisée d'une manière analogue. Par exemple, que chaque cheveu est devenu deux cheveux, que les éléments osseux se sont scindés particule par particule, et cela très rapidement. Il est clair que c'est d'une absurdité monstrueuse, mais l'absurde ne doit jamais nous arrêter. L'histoire des sciences nous le montre à chaque pas. Ils se turent. Le tiers de lune jaune était devenu rouge et allait plonger dans les flots. Des chouettes élevaient leur voix, des nécromanciennes. Et si c'était pourtant un miracle? Mais ce serait un miracle. Mais ce mot a-t-il un sens? Il suppose que nous croyons à des lois naturelles absolues et qu'il faut un autre absolu pour les rompre. Je n'ai jamais cru qu'à des lois approximatives, susceptibles de rupture ou même de disparition. Ce que nous savons du monde est absolument négligeable. Je me suis depuis longtemps gardé de bâtir un système général sur une base aussi microscopique. Je vis sur des petits systèmes aléatoires. Je ne suis pas leur serviteur. C'est eux qui me servent. De quoi voulez-vous que je m'étonne? Mais alors, si cela ne s'expliquait jamais, ce serait un petit fait de plus à ajouter à l'infini des faits inexplicables. Du reste, tout est inexplicable au fond. L'explication humaine n'aboutit qu'à ranger parmi les choses familières ce qui ne nous était pas familier. Seulement, les choses familières ne sont pas plus connues que les autres. Chapitre 8. C'était un jour d'hiver mou et charmant, où de longs nuages se poursuivaient au-dessus des flots intarissables. Des barques de pêcheurs voguaient très loin, étrangement nettes, et qui toutefois semblaient enveloppées d'une brume. Deux frégates aux ailes tranchantes planaient sur les îles, un grand goéland cinglait dans la majesté douce de l'heure, tandis que la mer, soulevée d'un battement ample et jeune, semblait au matin de sa naissance dans les temps éternels. Les deux soldats avaient accompagné Valentine sur la plage. Les falaises élevaient des citadelles chaotiques où se creusaient des cavernes dont les plus hautes abritaient encore des hommes au Moyen Âge. Les promeneurs marchèrent longtemps en silence. Il y avait plénitude de vie dans leur poitrine. Autour d'eux, la nature était comme toujours une amie et une ennemie. Ils puisaient la force en elle à chaque respiration, mais elle les enveloppait aussi de sa perpétuelle menace et de son inlassable destruction. L'amour qui les exaltait était une émanation d'elle. Comme elle, il les emplissait constamment d'énergie, heureuse, et comme elle, il ne cessait de leur souffler l'inquiétude. Cette belle fille dont les jupes frémissaient au vent, ce visage pâle et plus nuancé que les nuages, et le fruit écarlate de cette bouche, leur chantait un hymne plus passionné que les vents d'équinoxe. Ils étaient maintenant pleins de force, quoique leur marche fût un peu boiteuse par suite de leurs blessures. Les grandes émotions de la guerre rendaient leur tendresse plus grave. Ils voulaient renaître dans d'autres créatures. Le sang de leur race fut révolté d'être stérile. Et un destin funeste voulait qu'ils fussent rivaux. Ils y songeaient en suivant la silhouette fine sur les galets et les sables. Ils en souffraient, mais non par jalousie. Aucune jalousie ne pouvait naître en eux. Comme au jour où ils s'étaient vus pour la première fois, ils avaient l'un pour l'autre une inclination qui venait des sources de l'être et que rien ne briserait jamais. Était-il possible qu'un des deux souffrît et se sacrifiât? Dans son innocence, Valentine croyait aimer celui qui avait pris le nom de Pierre de Givreuse. Mais, loin de le mieux distinguer de l'autre, chaque jour elle le distinguait moins. Il lui semblait qu'ils étaient encore plus identiques que naguère, et elle ne se trompait pas. Au début, on percevait une différence dans le grain de la peau, et pour des regards très subtils, une faible différence dans la largeur des visages. C'est ce qu'Augustin de Rougeterre avait un jour caractérisé en disant « L'un est un peu plus vertical, l'autre un peu plus horizontal. » Cette différence avait disparu. Le grain de la peau était identique. Les deux faces ne se distinguaient plus l'une de l'autre par aucun indice, même léger. Il n'y avait plus d'autre signe que la différence des costumes. Souvent, à l'insu de Madame de Givreuse et de Mademoiselle de Varsennes, ils échangeaient leurs habits. Et alors, celui qui avait accepté le rôle de Philippe devenait Pierre. Ces changements correspondaient à un besoin sentimental. Il permettait à chacun de vivre tour à tour dans une intimité plus filiale avec leur mère. La plage était déserte. Pourtant, ils avaient rencontré une pêcheuse de crevettes, puis deux adolescentes. Leur ressemblance n'excitait guère d'étonnement. Elle était devenue familière. Tout le monde croyait à l'histoire que Rougeterre avait racontée à Madame de Givreuse. À peine si cette histoire paraissait maintenant étrange. La nature et les miroirs ont adapté l'imagination humaine depuis des millénaires aux plus merveilleuses ressemblances. L'un des deux se trouva seul avec Valentine. C'était celui qui, ce jour-là, figurait Pierre de Givreuse. Une brise fatale et tiède s'était levée, qui venait de la mer et qui apportait les effluves du large avec un léger goût d'orage. La jeune fille devenait nerveuse. Parce que sa vie avait été si parfaitement purifiée par l'éducation et par une docilité naturelle aux règles, Valentine subissait les instincts qui sont en nous, sans aucune lumière pour les éclairer. Ses lectures, triées avec soin, la laissaient dans une ignorance que jamais elle n'essayait de rompre. Pour tout ce qui intéresse l'essentiel de la destinée féminine, elle était pareille à un petit enfant, alors que, par ailleurs, la nature l'avait faite pour un grand amour. Ce qui naissait en elle l'agitait magnifiquement, comme un ouragan dans les ténèbres. Elle savait seulement qu'elle devait partager le destin d'un homme, et elle y consentait. Mais elle tremblait devant une réalité formidable. Il y avait deux images du même homme. Ce drame qu'elle était incapable de formuler troublait ses jours et ses nuits. Ils parvinrent dans un fantastique pays de pierres taillées. Elles s'étalaient au pied des falaises dans un tumulte muet. Elles évoquaient une œuvre de Cyclope, des villes primitives, des cimetières de granit, des tours aiguës, des pyramides, des ruines de cathédrales. Pourtant, la mer seule travaillait là depuis des centaines de millénaires, avec la collaboration des ouragans et des tempêtes. Valentine contemplait les vagues montantes. Elle s'élançait sur les pierres avec ses longs mugissements qui étonnaient les antiques aèdes. Elle semblait d'immenses troupeaux de bêtes fabuleuses, aux fourrures blanches, aux peaux vertes. Elles entraient dans les détroits de granit et en ressortaient brisées. Du large, d'autres troupeaux accouraient, intarissables, qui semblaient devoir monter au-delà des falaises et noyer la terre. Mais la force qui les massait au fond de l'étendue était la même qui devait marquer leurs bornes et les chasser. Vous souvient-il, murmura timidement le soldat, c'est ici que nous fîmes notre dernière promenade avant la guerre. Que de fois je vous ai évoqué, debout sur une pierre rouge, avec vos cheveux presque dénoués. Une barque mince comme un croissant de lune passait à l'horizon. Le son venait. Déjà les feux d'un phare et ceux d'une étoile se croisaient à travers l'étendue. C'est le plus grand souvenir de ma vie. Elle tourna vers lui ses beaux yeux celtiques. L'aveu muet fut plus fort que des paroles. Il frémissait de genèse, d'ardeur et de rêve. Mais quand l'autre approcha, Valentine fut saisie d'une angoisse intolérable. Elle eut la certitude que lui aussi l'aimait et qu'il n'y avait aucune raison essentielle pour qu'il fût rejeté. Il y avait de l'horreur, de la pitié, du remords en elle. Tout ce qu'elle pouvait se dire échouait devant un instinct d'autant plus impérieux qu'il demeurait indéfinissable. Quand ils furent rentrés au château, les deux soldats s'attardèrent dans le jardin sauvage. Celui qui avait parlé à Valentine raconta la scène comme s'il le répétait à lui-même. L'autre dit: Mais que faire maintenant? Vous avez fixé l'avenir. Un de nous épousera Valentine, c'est nécessaire. Il y a là un bonheur si sain et si fort, mais que deviendra l'autre? Est-il possible qu'il souffre? Un autre amour peut le sauver. La vie est innombrable, il suffit d'une rencontre. Le temps est avec nous et ses métamorphoses. Une rauque tribu de freux s'éleva des ruines. Les deux hommes demeuraient silencieux, dans une incertitude tragique. Quel est celui qui désormais portera jusqu'à sa vieillesse notre nom et qui aura Valentine en partage? Oui, quel est celui qui n'aura plus de nom, qui sera comme un enfant trouvé et qui n'aura peut-être aucun amour en partage? L'avenir s'emplit de ténèbres. Ils virent l'horreur de leur sort disjoint et une longue plainte se répercuta dans leurs êtres. Celui qui avait parlé à Valentine dit d'une voix morte: Cette résolution est trop formidable, nous ne pourrons la prendre encore. La vie serait également intolérable pour tous deux. Que sont quelques mois et même une année pour Valentine? L'effroi croissait plus fort. Un chat-huant éleva sa voix gémissante. Les deux givreuses baissaient la tête, perdues dans une méditation douloureuse. Chacun sentait qu'il lui était impossible de consentir à ce que l'autre fût sacrifié.